Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, c'est Sarah qui nous emmène à nouveau faire un tour du côté de la Grande Ourse, ce squat autogéré dont nous vous avons parlé régulièrement. Malgré leur expulsion récente, eh bien on avait commencé à y faire une série de reportages pour présenter leurs différentes activités et les différentes thématiques qui animent militantes et militants. Pour ce premier reportage, Sarah a discuté avec deux militants de leur rapport au militantisme, mais du fonctionnement du lieu et de l'accès au logement de manière générale. Ça sera pour la première partie de cette émission. Enfin, avant de nous quitter, on aura Clémence en studio qui reviendra autour du hashtag #Sciencesport qui secoue depuis quelques heures les instituts d'études politiques françaises. Ça sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose qu'on commence sans plus tarder.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Immersion en janvier à la Grande Ourse pour parler militantisme. À notre arrivée, un groupe se préparait à aller faire une performance place du ralliement.
On est une petite troupe, là, on doit être 7-8 à aller à ralliement du coup en centre-ville à Angers. Et l'idée c'est de proposer une petite prestation de jonglage enflammé aux passants qui ont certainement depuis un moment pas pu profiter de ce genre d'art vivant. Et donc on fait ça de manière amateur et de manière spontanée, quoi. Il n'y a rien d'organisé, on n'a pas demandé de compte à rendre à qui que ce soit. On veut juste se faire plaisir et le partager aux gens. Donc voilà, là on est parti avec nos agrès perso et puis voilà, c'est à peu près ça le plan. Alors régulièrement on fait ça entre nous, on se pose quand même donc dans des parcs où en tout cas c'est visible, donc il y a souvent des gens que ça interpelle. Mais là c'est la première fois qu'on va se représenter en centre-ville et où il y aura autant de passages. Chose qui... Enfin, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on en a envie, mais dans le contexte avec le Covid, on sait que invoquer des rassemblements c'est un petit peu délicat. Donc il y a une personne qui va être chargée de s'assurer qu'il y a une distance de sécurité avec nous, parce que bon, bah, on fait quand même du jonglage en feu, c'est dangereux. Et aussi de s'assurer qu'ils respectent une distance de sécurité, parce que voilà, on veut pas véhiculer le virus, on veut pas créer de malaise auprès des gens qui nous regarderont, ni d'avoir de soucis avec la police. C'est pas le plan non plus.
Nous nous sommes installés avec deux membres de la Grande Ourse dans un des coins salons.
Alors là, on est juste à côté du bar, juste à côté de la salle d'art. On est un peu dans un espèce de salon qui s'est improvisé. Le bar, qui à cause du confinement est fermé, se retrouve complètement inutile. On a décidé de le changer en atelier d'ombre chinoise.
Qu'est-ce qu'on entend par militant? En général, j'ai l'impression qu'on entend quelqu'un qui lutte pour un truc politique, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend par politique? Bon, une définition que j'aime bien, c'est de dire que la politique, c'est de définir ce que c'est que la bonne vie et toutes les actions pour y arriver, quoi. Partant de là, je trouve que ça connecte le militantisme, en fait, à tous les aspects de la vie. Si la bonne vie, c'est une vie soutenable, bah, du coup, ça connecte à l'écologie, à la production alimentaire. Du coup, le militantisme, ça peut être ça. Et si on se dit aussi que la bonne vie, c'est une vie digne, où personne n'y est laissé de côté, bah du coup, bah, ça connecte à la lutte pour le logement, à ouvrir des squats. Si la bonne vie, c'est aussi une vie où on se méfie des pouvoirs autoritaires et fascistes, bah du coup, le militantisme, c'est aussi lutter en manif, ça peut être tout ça, quoi.
Il y a un militant en extérieur, on va faire des manifs, on va faire des événements, et il y a un militant de tous les jours, et c'est vraiment pas dissocié. Le fait d'habiter dans un squat, ça fait qu'on se ressent militant, même si on n'a rien branlé depuis deux jours, parce qu'en fait, faut parler aux gens tout le temps, leur expliquer certaines choses, les écouter, en comprendre d'autres aussi, parce que faut rester un peu humble aussi. Et ouais, du coup, on se retrouve avec énormément de personnes, énormément de problématiques, de par exemple d'oppressions différentes qui font que être militant sur le coup, ça peut être à dire à tel mec de se calmer par rapport à à une fille, ça peut être de se calmer sur certains mots que tu vas employer, sur une espèce de parler du racisme sous-jacent ou tout ce qui peut arriver qui est au final dans notre nature maintenant et qui n'est pas censé l'être, et du coup déconstruire tout, déconstruire un peu les autorités extérieures, tout le système en général, et déconstruire aussi nos habitudes, notre façon d'être. Et du coup être militant, ça peut être, tout le monde peut l'être en soi, donc je pense que je me considère comme militant, mais juste parce que je donne du temps pour un truc, ouais, pour quelque chose de plus égal et une politique qui me correspond un peu plus. On peut pas prôner vraiment quelque chose qu'on fait pas, quoi. Je me suis pas considéré militant avant d'arriver en squat. Je commence à me dire que ouais, je commence à me rapprocher du profil que j'avais en tête d'un militant. Et le fait d'être en squat ou d'avoir un entourage avec des militants partout, ça fait que ouais, tu te sens un peu comme ça. Donc oui, j'aurais peut-être 2 ans et demi à côtoyer ces personnes-là et du coup à me rapprocher un peu de certains idéaux. Mais
justement, moi je trouve qu'il y a vraiment des bifurcations. Et c'est des bifurcations qui sont intéressantes en fait. Au fur et à mesure de rencontres, j'ai rencontré des gens avec qui on a monté le projet de la Grande Ourse, et du coup c'est vraiment un événement de bifurcation dans ma vie. À ce moment donné là, tout a basculé et j'ai lâché mon taf, mon appart, et je suis parti vivre à la Grande Ourse, puis donner tout le temps que j'avais à ce projet là et de ce projet là plein d'autres sont nés, et j'ai l'impression qu'ils m'ont renforcé en plus dans cette bifurcation, quoi. Ce que je trouve vraiment vraiment ouf, c'est que pourquoi est-ce que j'ai bifurqué, parce que je trouve que la vie que proposait le squat, cette lutte pour le logement qui a amené à plein d'autres choses, c'était beaucoup plus fort que ce que proposait une vie tout seul dans son appartement, à faire des tafs pas du tout intéressants, qui avait aucun sens particulier, outre le fait de pouvoir se nourrir et payer les factures à la fin du mois, quoi.
L'avant a été assez décisif sur le fait que je me mette à vivre à la Grande Ourse, du coup le premier squat où je suis allé.
100K ? Non ! 100K ! Putain merde, 100K, descends là.
La vie d'avant a été assez décisive, c'est-à-dire que j'étais en pleine phase de dépression, alors que ça faisait énormément de temps que j'étais dans le milieu de la free party. Ce milieu peut paraître comme ça, pas forcément militant, mais en tant qu'organisateur, tu finis par le devenir. Et du coup, on s'est attaqué exactement aux mêmes problématiques qui atteint directement le squat, c'est la propriété privée. Où est-ce qu'on fait une fête pour gêner personne dans un endroit où il y a personne et qui n'appartient à personne? Et du coup c'est pas possible. Tu te rends compte qu'il n'y a aucun terrain qui n'appartient à personne et que du coup t'es forcément obligé de profiter du terrain de quelqu'un d'autre. Ajouter à ça le fait qu'il faille trouver tout le temps un travail, qu'il faille c'était énormément de pression, tout ce qu'on demandait quand tu sors du lycée. Et du coup au final être militant c'est aussi le rester, et ça c'est assez intéressant de juste avoir du temps pour pouvoir continuer à être militant, et du coup il faut pas forcément travailler, c'est assez dur de lier les deux, alors que là quand tu te retrouves dans un bâtiment que tu ne payes pas, avec de la nourriture que tu ne payes pas, mais par contre du monde partout, des drames, des sourires, ça fait que tu continues à être militant aussi.
Le point de départ de la Grande Ourse, c'était une lutte pour la dignité dans le logement. C'était une émancipation en fait sur la question du logement, parce qu'en fait il y a des gens qui n'ont pas accès au logement. C'était de proposer à notre échelle une solution pour les personnes à la rue. Du coup ça passait par la pratique du squat, chronologie. Après 2-3 mois du premier squat qu'on a ouvert, on s'est rendu compte qu'en fait c'était on ne faisait que gratter la surface du problème, et qu'en fait il y avait plein d'autres problèmes. La question de l'alimentation par exemple, ça a donné lieu au RAR, qui est une association qu'on a montée avec des gens aussi inscrits dans le milieu rural, et du coup qui est une association qui fait du lien entre la ville et la campagne pour faire en gros de la récup alimentaire et aussi de l'autoproduction. Du coup s'émanciper sur la question de l'alimentation, s'autonomiser sur la question de l'alimentation. Il y a plein de choses sur lesquelles s'autonomiser, quoi. On pratique plutôt petit à petit, en mesure de nos moyens, face aux nécessités, essayer de s'autonomiser petit à petit sur certains sujets. Et j'ai l'impression que l'idée globale, c'est pas l'autarcie, mais bien au contraire de une autonomie collective, une lutte pour l'émancipation aussi, quoi. En retrouvant des savoir-faire agricoles, alors que la plupart des gens ici viennent de la ville. Fin...
Le but n'était pas de s'autonomiser au sens survivaliste ou je sais pas quoi. Là, le but, c'est de s'autonomiser déjà dans l'État, on va dire, pouvoir continuer continuer à évoluer avec sans forcément être contraint par déjà par l'argent en fait, par des difficultés administratives ou pour par exemple le permis, la question du permis qui plombe énormément d'étudiants, de jeunes, de personnes dans la galère. Il y a une auto-école qui a été faite là-dessus où là c'est toujours avec l'État qu'on va essayer de bosser, mais de réduire le coût et la difficulté de d'avoir son permis en fait le plus possible. On a une friperie où on invite peu de personnes y passent, alors qu'on invite énormément de personnes, et pas que les personnes dans la rue, à y aller, mais par exemple des étudiants ou juste des personnes dans la précarité. Je pense que ça nous touche tous et ça a été un outil pour amener un peu de campagne dans la ville. Je pense que ce que le RAR visait en remplissant les cagettes, on va dire, dans la friperie, c'est aussi ça. Même en ville, pouvoir avoir quelque chose de sain sans payer 30 euros par semaine. Au début, on avait, c'était vraiment la politique d'héberger. C'est ce que toutes les personnes qui avaient construit, à peu près toutes les personnes qui avaient construit ce lieu avaient en projet. C'était leur objectif. Ça a permis d'énormément grandir jusqu'à développer ses tentacules à un point où la pieuvre, elle est devenue énorme. On avait des réseaux de partout. La Grande Ourse commençait à être très, très connue. Dans Angers, ça commençait à être... nous, ça nous surprend. Prenait pas mal. Et on a commencé à essayer de viser quelque chose de plus culturel à un moment où, à la demande de pas mal de personnes qui sont arrivées entre-temps et qui voulaient viser pas juste l'hébergement, mais aussi le culturel en général, ou s'ouvrir à toutes les autres luttes, essayer de s'ouvrir plus en ville. Du coup, un bâtiment a été ouvert complètement dans le centre. Enfin, Cœur de Maine, c'est déjà plus proche que l'ancien squat. Au final, on avait des pièces bien plus énormes, de quoi accueillir du public. L'idée du bar était là. Ça permet de se faire un peu d'argent quand même. Ça permet de surtout parler, échanger et faire venir des personnes qui peut-être viendraient juste pour boire une bière et qui finirait soit avec nous, soit avec une certaine idée dans la tête par rapport à une projection qu'on a pu faire. Enfin, au final, ça devient un lieu de rencontre et c'est, je pense, le plus important. L'entre-soi, c'est pas forcément ce qui permet d'évoluer ni de grandir.
Derrière l'idée de la Grande Ourse, quoi, j'ai aussi l'impression qu'il y a l'idée de se réapproprier l'espace public, en fait, la ville. Parce que, en fait, l'idée, c'est que la ville, elle appartient pas à ceux qui l'achètent, mais à ceux qui l'habitent. Et par exemple, l'endroit dans lequel on est là, le promoteur qui l'a racheté, son objectif c'est de faire une salle de sport et des logements réservés à des, enfin en tout cas pas à des gens qui auraient nos salaires, quoi. L'idée de se réapproprier l'espace public, c'est de se dire que des bâtiments vides et désaffectés, ils peuvent servir à loger des gens, mais ils peuvent servir aussi à créer des lieux culturels, de rencontres, et on n'a pas forcément besoin de payer genre 30 balles sa soirée, enfin que la ville peut être construite pas seulement par des investisseurs, des promoteurs ou des entrepreneurs, mais elle peut être aussi construite par ceux qui l'habitent. Il y a un phénomène qu'on appelle gentrification, le mouvement par lequel le capitalisme va conquérir la ville petit à petit, en commençant du coup souvent par le centre-ville, puis en s'étendant et s'étendant. Et du coup, ça a des effets. Hein. Globalement, c'est augmenter tous les salaires pour que petit à petit le centre-ville, la ville elle-même soit réservée que à des personnes qui ont un haut niveau de vie, et que les classes populaires soient rejetées toujours plus loin à l'écart. À Angers, on en a des exemples assez édifiants. Hein. Par exemple, le quartier Tirebouannet, qui est un quartier populaire où depuis une trentaine d'années, depuis même une quarantaine d'années, toutes les rénovations étaient interdites par la mairie pour que tout tombe en ruine et ensuite soit racheté par des promoteurs pour construire en gros des logements pour les classes sociales sup et les étudiants en Angers, quoi. Et ensuite, il y a aussi le quartier Tirebouannet, qui était du coup un quartier complètement populaire là aussi, où tout a été rasé. C'est un quartier qui était difficile. Alors plutôt que mettre en place quoi que ce soit, tout a été rasé et les populations qui l'habitaient ont été renvoyées à Cholet, réparties ailleurs, alors que c'était des gens qui avaient des liens entre eux et tout ça, ça n'a pas compté du tout. Tout a été détruit, quoi. Et les gens dispersés. Et du coup, j'ai l'impression que la pratique du squat, elle a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Ou en s'emparant de, des lieux qui, sans être squattés, en fait, seraient juste détruits comme ça, bah, la pratique du squat, elle permet de mener une lutte contre ce mouvement de chasser les populations, enfin les classes populaires. Et elle permet de résister et que des bâtiments puissent servir à héberger des gens ou mener une vie culturelle.
Au-delà de du coup la gentrification qui chasse toujours, enfin qui va chasser les précaires dans des endroits où les services publics généralement ne sont pas du tout présents, où aucune aide ne sera apporté pour eux et où ils vont pouvoir être oubliés pour... au mieux oubliés, si ce n'est ordonné, géré. On se retrouve avec des cités énormes. On a aussi énormément de spéculation immobilière. Rien que sur Angers, c'est assez impressionnant. Des bâtiments qui vont être rachetés. Et, là, le squat devient un outil assez intéressant parce que du coup, le bâtiment est abandonné depuis, je sais pas, 4-5 ans. Le prix, il augmente encore et encore. Et enfin... ce que tu vas pouvoir en faire derrière va être l'argent que le promoteur immobilier va pouvoir se faire derrière est de plus en plus énorme. Et là on se retrouve avec énormément de bâtiments où c'est le cas. Sur Angers c'est 12 500 logements qui sont vides et à chaque fois c'est des prix qui augmentent pour la revente et ça c'est tout bénef pour les personnes qu'on combat directement. En tout cas je pense que le squat a été créé à la fin, il n'a pas été créé en tant qu'outil politique à la base. Je pense que les bâtiments vides, il y en a sûrement toujours eu plus et plus et plus, et que des gens dans la rue, il y en a toujours eu, et que les personnes qui sont dans la rue, elles ont tendance à vouloir trouver un toit, à chercher comment se mettre à l'abri du vent. Et je pense que le squat, ça a toujours été quelque chose de à la base qui est utilisé le plus souvent par des personnes qui, par définition, sont précaires parce qu'elles n'ont pas de maison, elles n'ont aucun bien, elles ne possèdent aucune propriété. Et du coup, elles vont se retrouver dans des pièces vides jusqu'à être dégagées. Peut-être que c'est le cercle sans fin depuis des milliers d'années, je ne sais pas.
C'est difficile de dire qu'est-ce que c'était, pourquoi ça a été créé le squat à l'origine. Je pense que des origines, enfin, il n'y en a pas, quoi. Mais par contre, une histoire, il y en a une. Et par exemple, je pense que à Angers, ça commence dans les années 50 avec, j'ai oublié son nom, mais une dame qui s'est appelée la Maronne des squats, qui est du coup une femme qui était plutôt d'origine bourgeoise, quoi, et qui a ouvert plus d'une centaine de squats après la guerre, quoi, pour loger les nombreux SDF. Je pense qu'on peut relié aussi à la question d'avant qui était comment le capitalisme aussi il va s'emparer de la ville. Et clairement en fait des lieux communs il y en a toujours eu. Et le mouvement du capitalisme, c'est de s'approprier les lieux communs et de les faire passer par des rapports marchands. C'est-à-dire on se réunit plus dans une place gratuitement, enfin la question se pose même pas, juste pour se rencontrer, quoi. Non, on se retrouve dans un lieu de consommation pour consommer ensemble et avoir des liens sociaux. Mais du coup ça passe par cette relation marchande, quoi. Le squat en tout cas c'est un outil qui va permettre de résister à ce truc là, quoi, et de conserver nos communs. Et par exemple à Marseille il y avait une place où il y avait un marché près de Noailles, j'ai oublié le nom. Du coup dans un effort de gentrification du quartier, du coup c'était un marché plutôt populaire, il a été fermé et pour tout reconstruire, faire des nouveaux bâtiments et tout. Et du coup il y a eu une longue lutte pour garder ce marché, quoi. Pour garder ce lieu commun en fait où les gens allaient faire leurs courses mais aussi se rencontraient, discutaient je pense que le squat c'est aussi ça, quoi. J'ai fait plusieurs fois la permanence administrative, c'est accueillir tous les gens qui passent et les aider dans leur démarche administrative et dans leur démarche juridique et dans leur démarche autour du logement, quoi. On s'est beaucoup auto-formé en fait pour pouvoir répondre à des questions au sujet de gens que t'as complètement perdu dans leur démarche sur tout ce qui est administratif, mais aussi pour des personnes qui parlaient pas forcément français. C'est un peu l'endroit qui permet de rencontrer des gens, de voir un peu leur désirs, leurs demandes, et ensuite, s'ils souhaitent habiter à la Grande Ourse, c'est l'occasion de les rencontrer, ensuite de transmettre à l'AG des habitants qui verra si oui ou non il y a la place pour accueillir cette personne, quoi.
On va dire que pour la perme administrative, enfin, il y a la perme administrative qui va, elle, s'occuper d'aider énormément aussi sur concrètement sur les papiers, comment s'inscrire à Pôle emploi, ou comment faire pour régler ce papier, ou des trucs un peu plus poussés pour des personnes qui n'ont pas de papier et qui sont pas en OQTF par exemple, donc en obligation de quitter le territoire français. Ou là, du coup, il y a moyen d'aider cette personne, peut-être qu'elle peut avoir des aides. Après, il y a les personnes soit qui vont être aidés parce qu'il faut peut-être les envoyer dans un milieu où, qui sera un peu plus adapté à, je sais pas, quel handicap, mais potentiellement psychiatrique ou même par rapport aux soins. Enfin, on a des personnes qui arrivent aussi dans un état, qui peuvent traîner une maladie ou alors qui ont des problèmes, qui ont mal à la jambe parce qu'une opération a mal été faite et il faut les renvoyer. Parfois, il faut les emmener au CHU, parfois, il faut voir où est-ce qu'ils peuvent... oui, est-ce qu'ils peuvent avoir des soins, et en fait des fois ils savent juste pas où aller, ou on a besoin de structures comme ça pour savoir par exemple quand t'es dans la rue comment prendre ta douche en fait. Et il y a un endroit pour ça, et on a aussi aiguillé toutes les personnes qu'on pouvait malheureusement pas héberger et qu'on a par contre pu au moins envoyer vers des structures qui te permettent de garder un petit peu de dignité encore. L'année dernière ça se faisait aussi beaucoup d'aller chercher des personnes au 115 et aussi d'aller en renvoyer vers le 115, de les amener à appeler, du coup 115 qui permet d'héberger quelques personnes, même si c'est vraiment pas c'est pas du tout une solution et tous les soirs ils doivent le refaire. Mais
puis je me permets aussi, il y a des gens, des militants de la Grande Ourse qui sont à la fac et qui ont pas mal aidé d'autres habitants de la Grande Ourse pour s'inscrire à la fac, et notamment des gens qui n'étaient pas français ou françaises, et on a financé plusieurs inscriptions à la fac. L'idée c'est quand même que le militantisme à la Grande Ourse, en fait, il est connecté à plein de questionnements, quoi, sur l'écologie, sur l'autoritarisme, et avec la loi sécurité globale on en a un bon exemple, mais aussi sur la précarité, aussi sur sur le modèle politique, quoi, qui était mis en question par exemple par les gilets jaunes. Et du coup voilà, je pense qu'on peut pas être, enfin en tout cas moi je me définirais pas comme juste juste c'est déjà beaucoup, mais genre de militant pour le logement, mais en fait militant pour la dignité, quoi. Et du coup ça mène à plein de questions. Et du coup, la Grande Ourse, on a quand même à cœur d'occuper l'espace public à travers la pratique du squat, mais aussi on a organisé plusieurs manifestations qui étaient à chaque fois dans l'idée festive et un peu genre carnaval, quoi. Et ça s'est toujours bien passé, sauf il y a quelques jours là où on a été empêchés de manifester parce que on n'a jamais déclaré nos manifestations, parce qu'en fait là, je veux dire, on n'est pas la lutte pour le logement, ça concerne tout le monde. Et c'est pas nous, en fait, qui sommes les chefs de cette lutte. Et non, en fait, elle appartient à tout le monde. Et du coup, il y a eu cet appel à manifester qu'on a rejoint. Et les CRS nous ont empêchés de manifester. Alors la manifestation a quand même pu se faire, mais on voit que... on nous met des bons bâtons dans les roues, quoi. Un des objectifs de cette Grande Ourse, c'était de pouvoir faire du lien et du coup d'être un lieu d'organisation politique. On a ouvert les locaux à tous les groupes avec lesquels on partageait une vision de ce qu'était la dignité, ce qu'était la lutte politique. Et du coup, il y a des groupes, je vais pas les citer, quoi, mais il y a plusieurs groupes écolos qui sont organisés depuis la Grande Ourse. Il y avait aussi une période les gilets jaunes.
De retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Babazoula avec le titre Sign Isilki Falcon Potion. On accueille Clémence en studio qui va nous parler d'un sujet sensible. Si vous êtes donc touché par des récits d'agression sexuelle ou de viol, vous êtes invité cordialement à passer chez nos confrères de Radio G 101.5. Et Clémence, je te laisse la parole.
Mardi 9 février 2021, le hashtag #ScienceSport est en tendance sur Twitter. Des milliers de messages de soutien sont adressés à une étudiante de Sciences Po Toulouse après le partage de sa lettre ouverte, lettre où elle explique avoir été victime de plusieurs viols par un autre étudiant. « Je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans. Et aujourd'hui je vous écris car à Toulouse aussi, on est violé. À Toulouse aussi, on est humilié. Et à Toulouse aussi, on peine à être écouté. » Cette prise de parole a été très fortement relayée et a amené d'autres victimes venant de tous les IEP à témoigner. Depuis, une enquête préliminaire a été ouverte pour viol à Toulouse, deux pour agression sexuelle à Grenoble, et un signalement à la justice a été fait à Strasbourg. Dans une interview pour France 3 Région, le directeur de l'IEP toulousain, Olivier Brossard, affirme qu'il se place du côté des victimes et qu'il accorde une grande crédibilité aux témoignages de Juliette. La plupart des témoignages ont été recueillis par la militante féministe Anna Toumazov, qui a lancé le hashtag #ScienceSport. Elle interpelle tous les IEP dans un tweet accompagné de témoignages. Les écoles Sciences Po couvrent les violeurs, font taire les victimes et apprennent à tous les autres la loi du silence. Ne nous étonnons pas de l'état de notre classe politique au vu de ce qu'on leur enseigne. Pointé par les témoignages, les week-ends intégration, soirées étudiantes et notamment le CRIT, 3 journées de critérium sportif inter-IEP. Un week-end où les jeunes femmes sont incitées à boire dès le matin et où une autre compétition des plus malsaines a lieu. Les étudiants se donnent le défi de coucher avec une étudiante de chaque IEP durant le week-end. Les jeunes femmes racontent une ambiance de prédation et de malaise au cours de cet événement qui leur est pourtant vendu comme sympa. Souvent, ce sont les étudiants les plus âgés qui s'en prennent aux plus jeunes. Pire, les étudiantes dénoncent une culpabilisation à leur égard de la part des autres étudiants. Pas assez drôle, qualifiées de bien-pensantes, voire poussées à se taire pour ne pas nuire aux crites. Anna Toumazov souligne une faible réaction des IEP suite aux plaintes des étudiantes. Une écoute psychologique est mise à disposition des victimes, avec des psychologues qui ne donneraient comme conseil de ne pas consommer d'alcool à ces week-ends et soirées étudiantes. Autrement dit, la faute est reportée sur les victimes, mais surtout, pas de sanctions directes vis-à-vis des agresseurs, une impunité qui a de quoi les conforter dans leur comportement. C'est en pleine crise de gouvernance à Sciences Po Paris que cette vague de témoignages a lieu. Hier soir, Frédéric Mignon a présenté sa démission. Le directeur de Sciences Po Paris était déjà appelé à quitter son siège depuis plusieurs semaines par diverses organisations étudiantes. Il avait nié être au courant des agissements d'Olivier Duhamel, accusé de viol par Camille Kouchner sur son frère jumeau lorsqu'il était adolescent. La démission de Frédéric Mignon fait suite à l'enquête demandée par le ministère de l'Enseignement supérieur au sujet de Duhamel. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a aujourd'hui réuni tous les directeurs de Sciences Po. Elle se réjouit de ce mouvement de libération de la parole. À l'automne dernier, c'était le hashtag Balance ton école d'art lancé par des étudiants des Beaux-Arts de Besançon qui épinglait aussi le silence des administrations face aux accusations de viol ou d'agression. Les grandes écoles ont définitivement sous-estimé cette nouvelle génération, courageuse et déterminée à briser cette culture du silence.
Merci Clémence pour cette chronique et sujet qui, s'ils ne sont pas extrêmement joyeux à mettre en avant, reste important de visibiliser. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci également à Sarah pour son reportage à la Grande Ourse. Ce soir, c'est mercredi soir, c'est votre soirée funk hip-hop en compagnie du coureur de funk, de Scratch Fellas et de La Mine. On se retrouve quant à nous demain pour la dernière Covidienne de la semaine. D'ici là, faites attention à vous. Portez-vous bien. Très bonne soirée à toutes et à tous.